L'homme me dit, fils d'homme, regarde bien, écoute de toutes tes oreilles, et fais bien attention à tout ce que je vais te montrer, car c'est pour que je te le montre que tu as été amené ici. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. Alors ici, dans Samuel, vous avez l'ange exterminateur. L'ange étendit sa main vers Jérusalem pour l'exterminer. Mais Yahvé se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui exterminait le peuple, « Assez, retire à présent ta main. » Contact avec les anges ici, pas très agréable. Quand vous pensez aussi qu'il y vous avez un chérubin qui empêche de vivre dans la plaine d'Éden depuis le péché originel. Mais cela se vit toujours dans l'obéissance à Dieu. Il en sera ainsi dans tout l'Ancien Testament. Mais l'intervention des anges ne s'arrête pas là, nous la trouvons dans la vie même du Christ. Alors j'aimerais compléter, parce que vous avez des extraits de la Sainte Écriture, où vous avez par exemple donc des armées ennemies qui arrivent sur Jérusalem. Et vous avez un général qui montre le Jérusalem et le Temple et dit « On détruira tout ça !» Mais à l'époque, le bon Dieu ne le souhaitait pas. Et là, vous avez deux anges qui apparaissent, mais des anges qui apparaissent sous forme humaine, mais très miraculeuses parce qu'ils font 4 mètres de haut. Vous voyez, là, ils prennent le général et ils le jettent en l'air. Et là, il retombe par terre. Et ils le reprennent. Et après, avec des bâtons, ils le frappent. Alors vous avez des colosses de 4 mètres qui... Un ch'tang, et qui le... Et à la fin, il est disloqué. C'est une marionnette, une poupée chiffon. Et il tombe par terre. Et ces deux anges sont encore là, visibles. Et là, vous avez le grand prêtre de Jérusalem qui est comme ça, il dit... Ça va très mal se passer. Ça va pas bien du tout, là. Et il dit à Dieu, mais c'est pas possible. Les armées de ce général vont nous couper en morceaux. Vous voyez, il ne se rend pas compte du miracle auquel il a assisté. C'est-à-dire que si Dieu peut faire apparaître deux anges pour tuer un général, il pourra faire autre chose. Lors d'un siège de Jérusalem, où l'autorité royale civile disait, nous allons abandonner, il y avait 170 000 soldats tout autour de Jérusalem. Et vous avez un prophète qui arrive et qui dit au nom de Dieu, « Demain, vous verrez la gloire du Seigneur. N'ouvrez pas les portes. Résistez. » Et le lendemain matin, le camp de l'armée qui assiège est silencieux. Au bout d'un certain temps, ils envoient quelqu'un pour espionner. Ils sont tous morts dans la nuit. Alors vous avez dit, mais c'est quand même incroyable. On ne connaît pas ces miracles. Ben, c'est des miracles qui font peur, voyez. Mais ça fait partie de l'histoire sainte. Donc imaginez comment on peut lire la Bible. Alors on va demander à Dieu d'intervenir comme ça maintenant, depuis que l'agneau de Dieu a été crucifié. C'est pas la méthode de Dieu qu'il utilisait dans l'Ancien Testament. Il y a bien une différence. C'est le même Dieu, mais qui est plus sévère quand même. Et là, le peuple hébreu, il est là, il chante la gloire de Dieu. Il dit, bon, c'est incroyable. Vous voyez, il a fait mourir toute une armée en une nuit. Vous voyez, l'ange exterminateur, là, il a été tout content. Il dit, oh, je mérite mon nom quand même. Hein, il a fanfaronné pendant je ne sais combien de siècles auprès des autres. Hein. Vous avez vu, hein? Efficace, hein? Et puis j'ai fait ça comme ça. Pas cruel, hein? J'ai arrêté les cœurs. Tac, 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 tac. Voilà. Mais voyez-vous, quand vous avez le passage de la mer Rouge, c'est aussi un miracle dur. Vous voyez? Vous avez le peuple hébreu qui est là devant un bras de mer et qui dit à Moïse, ah, tu nous as emmenés là pour nous faire mourir. Il y a l'armée égyptienne qui arrive sur ses chars. Et là, vous avez la nuée, cette colonne de nuages qui, la nuit, était de feu, une colonne de feu, une tornade le jour. elle part de devant le peuple hébreu, puisqu'elle l'a mené, il l'a amené jusqu'au bras de mer. Elle se met entre l'armée égyptienne et le peuple hébreu. L'armée égyptienne est dans la poussière, dans cette tornade, il s'arrête. Et là, Moïse écarte les bras. Vous avez la mer qui se fend jusqu'au sol et avec dessèchement du lit de la mer, parce qu'ils n'auraient pas fait 50 mètres dans la boue. Hein. Ils sont, comment dire, plusieurs millions. Ils sont au moins 2 millions. Et là, quand ils sont passés à pied sec, Moïse passe et l'armée des Égyptiens est là. Il voit ce chemin dans la mer. Le général égyptien dit « on fonce ». Et là, Moïse baisse les bras et tous ceux qui étaient engagés dans la mer sont noyés. Alors les exégètes biblistes, comme je vous l'ai déjà dit, disent « ah ben, comment dire, non, ils sont passés à 50 cm d'eau, le peuple hébreu, et puis après, je sais pas, et donc vous avez un groupe charismatique, pour ceux qui n'ont pas entendu cette histoire, je le dis pour la centième fois, il dit « ah, le Seigneur a fait des merveilles, le Seigneur a fait des merveilles, il a fait passer son peuple à travers la mer ». Et alors vous avez un exégète, un commentateur de la Bible qui dit « mais non, c'était 50 cm d'eau, il n'y a pas eu de grand miracle, il n'y a pas eu de murailles d'eau de chaque côté du peuple, et le sol n'a pas été desséché, tout ça c'est des bêtises ». Bon. Le lendemain il passe à côté, il entend le groupe charismatique, dit « il a fait des merveilles, il a fait des merveilles ». Il dit « mais qu'est-ce que vous dites exactement ?» Ah ben il a noyé l'armée de Pharaon dans 50 cm d'eau. C'est une merveille. Vous voyez, mais c'est cruel parce que leur mettre dans la tête de faire des pompes dans 50 cm d'eau, c'est sûr que c'est mortel. Voilà, c'est la raison pour laquelle, voyez-vous, ici, nous sommes dans l'Ancien Testament et les anges interviennent fortement. Et pour terminer mon histoire, donc le grand prêtre prie. Et là, les deux anges se tournent vers le grand prêtre, qui n'en mène pas large. « Viens, sur ta prière, il est sauvé. » Et là, vous avez le bonhomme qui ressuscite. Le bon Dieu lui refait ses os, lui refait le cœur qui avait dû exploser. Et comme ça, « Et toi, avec ton armée, pars et ne reviens jamais. » Il est parti, je crois qu'il c'était un Assyrien, et il a dit à son empereur, les Hébreux, il faut pas y toucher. On n'y retourne pas. Moi, je veux pas y retourner. J'y retournerai jamais. Voilà. Pourquoi? Mais c'était une mauvaise expérience. Voilà. Et alors, voyez-vous, je vous le dis, hein, sous mode de plaisanterie, mais quand nous lirons l'extrait où vous avez l'ange gardien de la petite Catherine Labourée qui la réveille rue du Bac et qui la fait descendre dans la chapelle pour voir la Vierge Marie, ben c'est un ange. Hein. Alors lui est un peu plus pacifique. Hein. Il n'a pas foutu le feu dans tous les couloirs pour montrer que c'était un ange. Et... Alors, eh bien sûr, l'intervention des anges dans l'Évangile. Alors que Joseph avait formé le dessein de répudier la Vierge Marie, parce qu'il comprenait pas que l'ange, hein, il comprenait pas que la Vierge Marie soit enceinte, alors qu'il était dans la première étape du mariage, les fiançailles juives sont la première étape du mariage. Donc il devait la répudier, c'est un quasi-mariage, les fiançailles. Et donc là, je sais pas pourquoi il a pas pris comme exemple l'archange Gabriel qui annonce à la Vierge Marie qu'elle va être la mère du Messie, du Sauveur. Mais là, on voit un ange parler. Hein. Matthieu 1, 20. Hein. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ceux qui disent que les anges n'existent pas, ben, ils jettent la moitié de la Bible. C'est gravissime. Ah, mais il y a les anges qui existent, mais les démons n'existent pas. Vous avez des démons qui sont cités tout à fait précisément. Et voilà, Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené au désert par l'esprit, pour être tenté par le diable, par une idée. Il était là, comme ça, il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et c'est miraculeux, parce qu'il n'a pas bu non plus, comme Moïse. Vous avez des exégètes qui disent, oh, mais non, il a bu. Hein, comme des prisonniers de l'IRA, enfin, des prisonniers politiques de l'IRA en Irlande du Nord. Vous savez, il y en a un, il a mis 70 jours à mourir. Hein, parce qu'il buvait de l'eau, que de l'eau. Hein, mais à la fin, vous voyez. Eh bien, non. Là, ici, c'est même sans eau. Donc c'est miraculeux. Mais c'est miraculeux, mais il y a quand même un effet corporel. Jésus a eu faim. Alors, est-ce que c'est une hallucination, comme dirait le général des jésuites? Ben non, 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 non. Lucifer en personne ne lui est apparu. Et Lucifer, l'incarnation, il la saisit pas encore. Hein. C'est très surnaturel, l'incarnation. À cette époque, Lucifer, il observe, il sait pas encore. Pour nous, on nous l'a révélé en long, en large et en travers, mais pour... C'est quoi? Fils de Dieu. Fils, comment? Spirituellement, naturellement, nature divine. Mais il a un corps humain, il a une âme humaine, enfin, il comprend rien. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte. Alors les exégètes disent, ah mais on doit le prendre au pied de la lettre, tout ça. Ben, moi, pour ma part, comme je suis un fondamentaliste, intégriste, ben, de la même façon que pendant que je vous parle, vous avez un démon qui fera passer le verre de l'autre côté de la table. Vous voyez? Oui, enfin, quand vous assistez à un exorcisme et que la personne possédée part en l'air, avec les deux gars qui sont chargés de la calmer, enfin de la saisir. Moi, j'ai un prêtre exorciste, alors qui a vu ça. Hein. Vous voyez, vous avez deux. Donc dans les films, ils exagèrent et tout ça, mais il y a des scènes d'exorcisme qui sont impressionnantes. Et... Donc le démon a très bien pu saisir le corps de Jésus pour le transporter, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et Jésus qui se laisse faire, il a risqué sa vie, le diable. Hein, bon. Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, il le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. » Vous voyez bien que là, c'est... Ah oui, mais alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est imagé, c'est pas imagé. Les mains des anges, ce sont pas... C'est, si vous voulez, pour nous, les actions des anges, il nous faut des images concrètes pour que... Comment dire? Quand les anges nous apparaissent, ils apparaissent pas seulement en halogène. Vous voyez? Pouf! Une boule de lumière. On pourrait être habitué à voir les anges en boule de lumière. Et même une boule de lumière, c'est pas normal. Ils n'ont pas de photons, les anges. Et quand ils apparaissent sous forme humaine, c'est pour être dans notre manière de saisir ce que l'on voit. Et ne pas avoir trop peur. Sur leurs mains, ils te porteront. Les anges n'ont pas de mains, mais c'est une manière de parler. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Tu ne mettrais pas à l'épreuve Dieu. Tenter, au sens propre, c'est mettre à l'épreuve. De nouveau, le diable le prend avec lui, sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, tout cela je te le donnerai, si te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et le servaient. Et bien là, voyez-vous, on voit exactement l'intention de Lucifer, hein, d'être adoré à la place de Dieu. À la résurrection du Christ, le Christ traverse le tombeau et la pierre du tombeau et la caverne du tombeau par son corps glorieux qui a la propriété de des photons qui traversent le verre. Les atomes du Christ sont dans un état de gloire qui traverse la matière, comme il traverse les portes ou les murs du Cénacle, comme il a traversé le ventre de la Vierge Marie à sa naissance. Oui. C'est pour ça que la Vierge Marie est vierge avant, pendant et après l'enfantement. L'hymen de la Vierge Marie n'a pas été déchiré par le Christ. Dans un miracle particulier pour nous montrer l'immortalité que Dieu veut nous donner. Et bon, pour saint Matthieu, après que le Christ soit parti, les gardiens dorment encore, donc ils n'ont pas vu Jésus ressusciter, les gardiens. Et alors que Jésus n'est plus dans le tombeau, vous avez un ange qui arrive, qui balance la pierre et qui s'assied sur le haut du tombeau. Et là, vous avez les gardiens romains, les gardes romains qui voient l'ange, ils tombent de terreur. Et quand ils se réveillent, ils partent en courant. Et l'ange restera. Et les saintes femmes arrivent, voient le tombeau vide, sont paniquées, et vous avez les anges qui apparaissent pour elles. Mais là, pas de manière effrayante comme pour les soldats romains, mais en toge blanche, avec une voix calme. Matthieu 28, 2, et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. Voilà ce qu'ont vu les soldats romains. Et dans le film La Résurrection, qui est un petit film, sur un centurion romain qui enquête sur la résurrection, il présente comment la pierre a été jetée, les scellés fondus, et comment les soldats, il y en a un qui raconte comment ils ont vu ça, comment il a vu l'ange et terrorisé. Enfin, c'est un petit péplum récent. Les apôtres eux-mêmes en font l'expérience. L'ange qui les libère de prison. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors, leur dit « Allez annoncer hardiment au peuple, dans le temple, tout ce qui concerne cette vie-là, la vie éternelle. » Actes 5, 19. Et ceux qui avaient été mis en prison par le Sanhédrin, pendant la nuit, les portes s'ouvrent et les apôtres sortent. Et le lendemain, ils sont dans le temple. Et là, le Sanhédrin, on vient dire au Sanhédrin, mais ils sont dehors. Et comment ils sont dehors? Ben, on ne sait pas trop. Mais allez les chercher. Oui. Alors, ils disent gentiment, vous pouvez nous suivre à nouveau. Bon. Mais ils comprennent pas comment ils sont sortis de la prison. Et est-ce que vous avez aussi Saint-Pierre? Oui. Philippe en mission. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Donc il part sur la route de Jérusalem à Gaza et vous avez l'eunuque de la reine d'Éthiopie qui est là, qui lit Isaïe et qui comprend rien. Il est comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et là, vous avez le diacre Philippe qui lui explique « C'est le Messie, souffrant. » Et là, il est tout heureux, il lui parle, il dit « Mais qui est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant dans la mort du Messie et sa résurrection ?» Alors Philippe le prend, le baptise, quand il l'a baptisé, vous avez l'ange qui lui a dit d'aller là, qui le prend et qui le ramène à Jérusalem. Et là, vous avez l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie qui voit disparaître celui qui l'a évangélisé. Corneille lui-même, alors que non baptisé, en a la révélation, car Dieu à qui rien n'est impossible agit là où il veut, comme il veut et où il veut. Acte 10, verset 3. Corneille eut une vision. Vers la neuvième heure du jour, l'ange de Dieu, il le voyait clairement, entrait chez lui et l'appelait. Corneille ! Il le regarda et fut pris de frayeur. Qu'y a-t-il, Seigneur ? Demanda-t-il. Tes prières et tes aumônes lui répondit l'ange, sont montés devant Dieu. Et il s'est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. On oublie que le Corneille a eu une apparition angélique pour faire appeler Pierre. C'était un homme pieux qui croyait dans le Dieu des Hébreux, qui évitait le mal et faisait le bien tous les jours de sa vie. Vous avez un ange qui lui est apparu quand même. Si nous prenons aujourd'hui le temps de regarder la vie des saints, nous serions certainement très surpris de voir autant d'interventions divines. Mais ces quelques pages n'y suffiraient pas. C'est pourquoi nous ne parlerons des anges que lors des apparitions mariales, celles-ci étant reconnues dans leur contexte complet par l'autorité de l'Église. Saint François de Romaine, à un moment donné, elle ment et son ange gardien la gifle. La prochaine fois, fais une restriction mentale, sois imprécise, mais ne mens pas. Ouais. L'ange gardien, je crois que de Saint François de Sales, si je ne m'avance pas trop, parce que Saint François est très discret sur les miracles dont il a fait l'objet, son ange le précédait avant qu'il soit prêtre, et quand il est devenu prêtre, l'ange le laissait passer le premier. Le 19 juillet 1830, une novice des Filles de la Charité est réveillée par quelqu'un qui l'appelle par son nom. Catherine. C'est son ange gardien qui a pris l'apparence d'un enfant de 5 ans et qui est tout vêtu de blanc. Il lui demande de venir avec lui à la chapelle où la Vierge Marie désire lui transmettre tout un message. La Vierge effectivement lui apparaît et lui parle. Cela se passait à la rue du Bac, à Paris. La novice avait pour nom Catherine Labouré. Elle nous a transmis, selon les demandes de la Vierge Marie, la médaille miraculeuse. Quand ils sont à la chapelle, le petit garçon lui dit, tu te mets là, et dit, elle arrive. Elle arrive. Et là, prenant une voix d'homme, pour un petit garçon de 5-7 ans, elle arrive. Et là, ploum, le petit garçon disparaît. C'était son ange. Vous voyez ? Et là, elle entend une personne marcher, parce que la Vierge Marie s'est pas contentée d'apparaître. Elle a marché dans la chapelle de la rue du Bac. Elle a fait la genouflexion, ou plutôt la révérence. En 1830, les femmes ne mettaient pas le genou en terre. Elles faisaient la révérence devant le Saint-Sacrement. Et elle va dans le chœur et s'assit sur le fauteuil du prêtre. Alors vous allez me dire, Fatima, encore. En 1916 au Portugal, un ange apparut par trois fois à des enfants. Il se présenta lui-même comme étant l'ange gardien du Portugal. Il demanda aux enfants de prier beaucoup, de faire des sacrifices. Les enfants n'avaient pourtant que 6, 8 et 9 ans. Il va jusqu'à leur enseigner lui-même une prière que les enfants rediront inlassablement chaque jour. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. » Après cette préparation, Marie apparut aux enfants pour appeler le monde à la pénitence et à la conversion. Cela se passait à Fatima, au Portugal. Ces deux exemples de manifestations angéliques à notre époque tend à prouver que les anges sont encore, de par la volonté de Dieu, à notre service pour nous conduire, nous aussi, vers le Père. Et quelques pages suivantes devraient, maintenant que ceci est établi, nous aider à mieux connaître les anges et apprendre à nous appuyer sur eux pour mieux servir Dieu. Tout d'abord, les anges sont innombrables. Daniel et Paul parlent de myriades. Et qu'est-ce que c'est qu'une myriade ? C'est des millions de millions, c'est des milliards de milliards. Ça ne veut rien dire, myriade, ça veut dire multitude. Mille milliers le servaient, myriades de myriades, debout devant lui. Daniel 7, 10. Le prophète Daniel, c'est pas la moitié d'un prophète. Il faut voir toutes les visions qu'il a eues. C'est dans le genre vie miraculeuse. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de myriades d'anges, réunion de fêtes. Saint Paul, dans la tradition synagogale, dans son enseignement écrit par Silas dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 12, verset 22. C'est saint Paul hein, qui, dans sa prédication, disait cela. Hein. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de myriades d'anges réunion de fête. Quand ils vont raser la mosquée du Dôme hein, et qu'ils vont reconstruire le temple de Jérusalem pour que l'Antéchrist y soit proclamé comme président de l'ONU, qui va se déplacer de New York à Jérusalem à ce moment-là, c'est pour insulter la ville de Dieu et la ville du roi, du Messie, de Jésus. Parce qu'il n'y a plus question de reconstruire le temple de Jérusalem. Le temple, c'est Jésus. C'est le corps humain de Jésus dans lequel repose la divinité. Et nous sommes tous des petits temples de Jérusalem. Donc on n'a pas à reconstruire le temple de Jérusalem. N'en déplaise même aux protestants sionistes qui disent on va reconstruire le temple et de toute façon ça va faire venir le retour du Christ et ça sera la fin des temps et youpi. Voilà. Vous voyez, donc eux, ils... non. Quand on est catholique, on ne souhaite pas la fin des temps. Il ne faut pas la souhaiter. S'il y a des signes de la fin des temps, il y en a peut-être des signes, mais nous devons d'abord être en état de grâce et tout faire pour que notre prochain soit en état de grâce. C'est ça, la vie humaine. Être heureux, maintenant et toujours. C'est ça, la religion. Oui. Jean, dans l'Apocalypse, parle de millions. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Myriades, ça veut dire millions, milliards. Apocalypse 5, 11. Jésus, lui, occasionnellement, emploie le terme militaire de l'époque, légion. Là, il dit à Ponce Pilate, qu'un bon gouverneur romain superstitieux, « Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges. 6 fois 12 ? 72 ? 72 milliers d'anges. 72 000 anges. Et là, il y a Ponce Pilate, 72 000 soldats. Oh, c'est pas mal. Il viendrait le délivrer ? Fait de la brasse coulée à ce moment-là. Hein. Il dit... Et il voulait le délivrer. Superstition. Authentique et bonne chez lui, à ce moment-là. Tout ceci tend à prouver que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais simplement une partie que Dieu a élevée au rang d'enfant. Selon la Bible, le monde de l'au-delà correspond à une société hiérarchique, où chacun aurait une place précise et un rôle défini voulu par Dieu. Rationnellement, il nous est impossible de décrire de façon précise cette organisation. Toutefois, nous trouvons dans les Écritures quelques renseignements. Ainsi apparaissent différents termes. Ange, archange, séraphin, chérubin, trône, domination, vertu, principauté et puissance. Les anges sont des esprits, c'est-à-dire des êtres immatériels doués d'intelligence et de volonté. Bien qu'immatériels, nous l'avons vu plus haut, ils peuvent prendre une apparence physique lorsque dans leur mission, ils doivent se montrer à l'homme. Ils font du musée Grévin hein, ou de Hollywood. Mais c'est des faux corps. Hein. Moi, je dis toujours, ils sont creux. Je vois pas un ange s'amuser à faire un cœur, un estomac, une rate, machin. L'ange à côté dit, oh, t'exagères. Fais-le transpirer simplement. Fais de la peau mieux qu'au musée Grévin, parce que là, t'aurais un teint de cire. Et ça va pas être crédible. Mais voilà. Les séraphins, dont le nom signifie brûlant, ardent, en hébreu, ont semble-t-il pour fonction unique hein, de louer le nom et les qualités de Dieu. Si l'on en croit Isaïe, Dieu semble les utiliser ainsi pour purifier de manière particulière ses serviteurs. Ils ont 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se tiennent au-dessus du trône de Dieu. Isaïe 6, 1, 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, 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 et Yahvé Sabaoth. Sabaoth, c'est les armées, mais les armées célestes. Hein. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris, et le temple était plein de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi Yahvé Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, et ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici. » En beau à moi. Il avait encore un peu mal. Hein. Oui. Mais courageux quand même. Hein. Et lorsque on bénit l'encens, on dit, comment dire, non, lorsqu'on va dire l'évangile, on dit, Seigneur, purifiez mes lèvres comme vous avez purifié les lèvres d'Isaïe. Alors vous avez le thuriféraire qui est là, qui prend un charbon, il fait, alors c'est une image, une prière. Hein, voilà. Les chérubins ont des mains, des pieds et des ailes. Ézéchiel, au chapitre 1 et 10, en donne une description fantastique qui ne peut être issue de la simple imagination. C'est miraculeux comme vision. Regardez ça. Je regardais. C'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, avec une lueur autour et au centre comme l'éclat du vermeil au milieu du feu. Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à quatre animaux, dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine. Ils avaient chacun quatre faces, et chacun quatre ailes. Leurs jambes étaient droites, et leurs sabots étaient comme des sabots de bœuf, étincelants comme l'éclat de l'airain poli. Sous leurs ailes, il y avait des mains humaines, tournées vers les quatre directions, de même que leurs faces et leurs ailes à eux quatre. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne tournaient pas en marchant, ils allaient chacun devant soi. Quant à la forme de leur face, ils avaient une face d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite, et tous les quatre avaient une face de taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face d'aigle derrière. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Chacun avait deux ailes se joignant, et deux ailes lui couvrant le corps. Ils allaient chacun devant soi, ils allaient là où l'esprit les poussait, ils ne se tournaient pas en marchant. Au milieu des animaux, il y avait quelque chose comme des charbons ardents, ayant l'aspect de torches allant et venant entre les animaux. Le feu jetait des lueurs, et du feu sortaient des éclairs. Les animaux allaient et venaient, semblables à l'éclair. Je regardais les animaux, et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des animaux aux quatre faces. L'aspect de ces roues et leur structure avaient l'éclat de la chrysolite, une pierre précieuse, hein. Tous les quatre avaient même forme quant à leur aspect et leur structure. C'était comme si une roue se trouvait au milieu de l'autre. Elles avançaient dans les quatre directions et ne se tournaient pas en marchant. Voyez. Imaginez, vous lisez ça tout seul. Vous êtes arrivé à Ézéchiel. Hein. Ça fait 8 mois que vous lisez la Bible tous les jours. Et que vous n'avez rien compris. Sauf qu'il y a des meurtres, des guerres et tout ça. Bon. Et là, vous voyez, vous lisez Ézéchiel et dites... Ah, oh, c'est pas possible. C'est quoi ça? Eh bien, c'est des chérubins. Et l'Église vous dit, il y a une nature angélique qui est des chérubins. On se calme. Voilà. Je passe. Page 8. Comme les séraphins, ils glorifiaient constamment Dieu et ils sont également très puissants. La Genèse nous les montre comme étant les étincelles de l'Éden. Genèse 3, 24. Dieu bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'Exode nous les décrit sur l'arche d'alliance, où ils sont le symbole de la puissance et de la sainteté de Dieu. C'est les seules représentations de créatures qui existent dans l'Ancien Testament. Et il y en a deux anges. Sculpté, qui était là. Ah, on peut pas sculpter Jésus, on peut pas sculpter les saints, on peut pas sculpter. Ben si, depuis que Jésus c'est le Verbe s'est incarné, on peut faire un bébé Jésus, on peut faire un adulte Jésus, on peut faire un crucifié, c'est Dieu qui fait lui-même une image de lui-même. Et il avait donné la permission aux Hébreux de représenter deux anges. Et les Hébreux ont été bien maintenus d'adorer les deux anges, hein. Parce que le premier qui commençait à adorer les anges, hein, il était lapidé, tué, enfin voilà. Donc ils étaient hors idolâtrie, bien qu'il y ait deux images. Vous voyez ? Et de nos jours, si vous voulez, le premier qui commence à dire « Ah, mais moi, la statue de la Vierge Marie, c'est la Vierge Marie, elle est vivante, elle me parle, elle bouge. Sauf miracle ponctuel pour un message, vous n'allez pas me dire que les statues qui sont dans les églises sont vivantes. Sinon, en effet, vous êtes des idolâtres. Mais comme je disais aux enfants tout à l'heure, vous avez des photos de vos parents. Oui. Vous considérez que ce sont vos parents? À chaque fois que vous avez une photo de vos parents, si vous avez trois photos de votre maman, il y a maman en chair en os, il y a maman photo, maman photo et maman photo. Non. C'est une image de votre maman. Et c'est légitime. Vous voyez? Eh bien, nous avons des images de Jésus parce que Jésus s'est montré avec cette apparence réelle. Tu feras au-dessus du propitiatoire d'or pur, c'est-à-dire le couvercle du coffre de l'Arche d'Alliance, de deux coudées et demi de long et d'une coudée et demi de large, tu feras deux chérubins d'or repoussés. Tu les feras aux deux extrémités du propitiatoire. Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes en se faisant face. Tu mettras le propitiatoire sur le dessus de l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Les psaumes. Il chevaucha un chérubin et vola, il plana sur les ailes du vent. Dieu. Alors, Dieu a-t-il besoin d'avoir un chérubin qu'il porte? Non, Dieu n'a pas de corps. Oui. Ah, mais alors là, donc c'est symbolique, hein, là vous êtes plus fondamentaliste et intégriste. Quand vous avez des événements historiques, quand vous avez toute l'armée qui assiège Jérusalem qui meurt en une nuit, c'est pas symbolique. Mais quand vous avez dans le psaume « Dieu chevauche un chérubin et vole », c'est poétique. Psaume 99 « Yahvé règne, les peuples tremblent, il siège sur les chérubins, la terre chancelle, dans Sion, Yahvé est grand. » Psaume 80, verset 2 « Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, resplendis. » Toute une armée céleste semble ainsi rehausser la gloire de Dieu et être à sa disposition pour gouverner le monde et exécuter ses ordres. Psaume 103, verset 20 « Bénissez Yahvé, vous ses anges, héros puissants qui accomplissez sa parole, attentifs au son de sa parole. » Si l'on en croit le songe de Jacob, les anges sont un lien important entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Genèse 28, verset 12. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Trône, domination, principauté, puissance, vertu nous sont quasiment inconnus puisque c'est l'apôtre Paul qui nous donne leur nom. Il semble difficile de savoir à quoi ils correspondent. Hein, dans la théologie, on essaye de dire, par exemple, les vertus sont à l'origine des miracles qui sont liés à la nature humaine, par exemple les guérisons ou les résurrections. Ils agissent sur ordre de Dieu, sur la matière. Les principautés, les trônes, ce sont des anges qui président au mouvement des étoiles et des planètes, rien que ça. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 16, tradition synagogale et donc tradition chrétienne révélée. Jésus est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Donc c'est Jésus qui a créé les anges avant de s'incarner. Dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, hein, les dominations, principautés, puissances. Ce sont des anges qui ont des missions particulières. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni passé, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Donc, Lucifer, il pourra faire tous ses efforts pour vous damner. Si vous, vous coopérez à la grâce du Seigneur, vous serez sauvés. C'est tout. Ah bon, Lucifer n'a aucun pouvoir sur moi? Aucun. Le seul pouvoir qu'il ait sur lui, vous, c'est celui que vous lui donnerez. C'est comme un chien attaché à une chaîne. Si vous vous approchez du chien, il vous mord. Si vous êtes à distance du chien, il pourra écumer tout ce qu'il veut. Les archanges. En ce qui concerne les archanges, le préfixe « arc » veut dire « premier »,« principal ». Un archange est donc, s'il nous est permis de nous exprimer ainsi, un ange en chef. Le passage de l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, chapitre 4, verset 16, reliant l'archange de l'Apocalypse à l'Apocalypse, semble confirmer cette thèse. Car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. Saint Michel, qui attend depuis tant de siècles. Je peux? La moisson est prête? On va pas couper des brins de blé avec des brins d'ivraie? On peut y aller? Hein? Et le Seigneur dit, oui, c'est bon. Et là, la Vierge Marie, ah, une minute, papillon. Ah, c'est pas la première fois que la Sainte Vierge me traite de papillon, hein. Moi, je suis quand même l'archange Saint-Michel. Oui, mais mon cher ami, je suis votre reine. Il attend. Et... mais à un moment donné, il descendra, l'archange Saint-Michel. Nous connaissons, alors, la Bible nous présente d'ailleurs Michel comme étant le grand prince qui mène le combat contre Satan. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le prince des anges, hein. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Nous connaissons également deux autres noms, Raphaël et Gabriel. Raphaël dans le livre de Tobie, hein, qui mène Tobie Junior jusqu'à son épouse, jusqu'à ce qu'il revienne pour soigner Tobie Senior. Et ensuite, page 10... l'archange Gabriel, il aurait pu le citer avant, hein. Donc, livre de Tobie, mais là, évangile de Saint-Luc, chapitre 1, versets 28 à 38. L'ange Gabriel entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. » et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Et là, la Vierge Marie, et comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, c'est-à-dire connaître, c'est avoir des relations conjugales avec un homme, et qu'elle y a renoncé. Un mariage joséphin, un mariage chaste. Hein? Il faut l'autorisation d'un prêtre pour qu'un homme et une femme mariés légitimement ne consomment pas leur mariage. Et là, la Vierge Marie avait consacré sa virginité. Elle lui fait cette objection. La dernière fois, dernière personne qui avait fait une objection à l'archange Gabriel, c'était Zacharie. Mais lui, par manque de foi, et là, Gabriel lui a dit « Je suis Gabriel, hein, je suis devant le trône de Dieu, et tu ne me crois pas ?» Hein, que le fils qui va naître, alors que tu as 80 ans, ta femme en a 80, eh bien tu seras muet jusqu'à ce qu'il naisse. Il sort du temple, muet, Zacharie. Vous voyez ? Eh bien là, la Vierge Marie lui fait une objection, mais c'est une objection de la reine des anges, de la mère à quelques secondes près du Messie. Et là, l'archange Gabriel est tout petit, très très poli, très 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 respectueux. La Vierge Marie lui fait une objection de sainteté. Et là, il répond, « Oh, mais il faut pas s'inquiéter. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Il explique. Hein, il n'a pas envie d'avoir un refus. Sinon, il aurait été le plus célèbre des archanges d'avoir mal présenté les choses à la Vierge Marie, en mission par Dieu. Ridicule pour l'éternité. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils, mais dans sa vieillesse. Elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et là, la Vierge Marie, dans sa liberté, le monde, tous les anges sont suspendus à sa réponse, la Sainte Trinité, dans le mystère de la grâce, fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. Et là, Gabriel, et l'ange la quitta. Eh oui. Et là, vous avez Daniel qui voit Gabriel. Hein. Daniel, c'est environ 600 ans, 500 ans avant Jésus-Christ. 450. Moi, Daniel, Daniel, chapitre 8, 15 à 18. Moi, Daniel, contemplant cette vision, j'en cherchais l'intelligence. Voici, se tenant devant moi, quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. J'entendis cette voix d'homme sur l'UAI. Ça, c'est les manières de dire les noms anciens. Criant, Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. Il s'avança vers le lieu où je me tenais, et comme il approchait, je fus saisi de terreur et tombai face contre terre. Il me dit, fils d'homme, comprends. C'est le temps de la fin que révèle la vision. Il parlait encore que je m'évanouis, la face contre terre. Il me toucha et me releva. Il dit, voici, je vais te faire connaître ce qui viendra à la fin de la colère pour la fin assignée. Donc Daniel a eu la vision de l'Apocalypse hein, et de la fin des temps. C'est certain. Je parlais encore, proférant ma prière, confessant mes péchés, les péchés de mon peuple Israël, et répandant par ma supplication devant Yahvé, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore en prière quand Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol, à l'heure de l'oblation du soir, aux vêpres, à 17h45 à Saint-Eugène. Il vint, me parla et me dit, « Daniel, me voici !» Je suis sorti pour venir t'instruire dans l'intelligence. Dès le début de ta supplication, une parole a été émise et je suis venu te l'annoncer. Tu es l'homme des prédilections. En latin, on a dit l'homme des désirs, l'homme de désir. Pénètre la parole, comprend la vision. Daniel 9, 20 à 23. Dis donc, quel saint ce Daniel, hein? Et Gabriel, voyez, il est sorti avec des boules-quies parce qu'il ne pouvait plus. Daniel n'arrêtait pas de prier. Les anges, ils pouvaient même plus adorer Dieu. Ils étaient là, mais c'est pas possible. Faites quelque chose. Et Dieu dit, bon, j'écoute sa prière. Parce que Daniel n'arrête pas de prier pour que Dieu sauve les âmes. Voyez. Et là, Gabriel est envoyé pour le faire taire. Et pour qu'il écoute. Alors, vous avez puissant. Hein. Alors, maintenant, pour terminer, parce qu'il est déjà 40, je vais simplement lire ce qui reste, parce qu'il y a plein d'autres citations qui sont merveilleuses et qui se reprennent. Voilà. Je terminerai par la prière à l'ange gardien et le catéchisme. Mais la page 11, les anges sont puissants. Deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 11. « Alors que les anges, quoique supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles, devant le Seigneur, de jugement calomnieux, les anges ne s'insultent pas. » Glorieux et saint. Saint-Luc, chapitre 9. « Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de celui-là, le Fils de l'homme rougira, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Jésus dit, quand je reviendrai, les anges m'entoureront. Et il dit, au grand prêtre, et vous me reverrez revenir sur les nuées du ciel, les anges autour de moi, le Fils de l'homme. Ah, il est homme et il dit qu'il est Dieu. Sur la nuée, c'est Dieu. Les anges autour, c'est Dieu. Immortels, aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges. Saint Luc, chapitre 20, verset 36. Ils n'ont pas de corps. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Malgré notre corps ressuscité, on n'a plus d'actes sexuels. On n'a que l'amour spirituel de personne à personne. Ce qui fait que, dans le Coran, quand il présente les houris aux grands yeux, dont l'hymen se reforme après chaque rapport sexuel, c'est un rêve de bédouin. Mais c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Je suis désolé. Esprit au service de Dieu. Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ils se réjouissent du salut des âmes. C'est ainsi, je vous le dis, il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, 10. Les anges nous aiment. Et l'ange qui nous a été plus particulièrement attribué, notre ange gardien, à notre conception, nous aime énormément. Ils peuvent, à la différence des hommes, voir la face de Dieu maintenant. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 18, 10. Donc les anges sont dans la vision béatifique, nous dit Jésus. Hein? On le savait déjà, mais Jésus le rappelle. Vous voyez? Et donc, il y a plein d'autres extraits, et je termine. Il est 45, et j'ai dépassé déjà de 15 minutes. Page 17. Il n'y a pas le numéro. Ah, ils mettent pas le numéro. Non, mais le numéro du catéchisme de l'Église catholique de 92. Toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. Donc quand un prêtre, ou un évêque, ou un cardinal vous dit que les anges n'existent pas, il n'est pas chrétien, il n'est pas biblique. Il a une religion vaguement inspirée du christianisme. Oh mais quand même, il croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est né de la Vierge Marie. Vous êtes sûr que ceux qui nient l'existence des anges croient en la virginité de Marie? Bon. Dans la liturgie, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint, comme l'a vu entendu Ézéchiel. Hein. Et vous avez un enfant, lors d'une liturgie en Orient, qui a entendu le triagion. Il a entendu « Saint, Saint, Saint » et en grec, il l'a entendu. « Dieu immortel ». Vous voyez ? Dans la liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint. Elle invoque leur insistance, elle fête plus particulièrement la mémoire de certains anges. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et les anges gardiens. De l'enfance au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Catéchisme de l'Église catholique 92. C'est de foi catholique, l'existence des anges gardiens. Donc si un ange, non, si un démon, non, un prêtre vous dit que les anges gardiens c'est une théorie fausse, eh ben vous achetez un briquet, voilà. De l'enfance au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie éternelle. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Hein? L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, c'est les anges. Hein? Invisibilium, c'est les anges. Enfin, nous trouvons même une prière à l'ange gardien et nous allons la lire pour terminer ce soir. Vous pourrez poser des questions, mais j'arrête le cours. Vous pouvez partir et ceux qui posent des questions restent et ceux qui veulent écouter les réponses aux questions. Mais je ne veux pas que le cours soit trop long. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Béni sois-tu, Saint-Ange, puisque dans son amour pour moi, vous pouvez le dire avec moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui jour et nuit m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour tout ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements, défends-moi contre les ennemis de mon salut, éloigne-moi les occasions de péché, obtiens-moi la grâce de t'être fidèle et docile, mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort, et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Amen. C'est la dernière roue de l'action divine auprès de nous. Alors vous allez me dire la Vierge Marie, mais la Vierge Marie est près de nous, à nous, mais certaines choses qu'elle fait pour nous, elle le fait par l'ange gardien, pour respecter la providence divine. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit repose sur nous et reste à jamais. Amen.